Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Un grand bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur BFM Business, à la radio, à la télé bien sûr comme chaque week-end et puis aussi sur 01 TV pour En Route pour Demain, votre rendez-vous dédié aux mobilités, à toutes les mobilités. Je suis ravi de vous retrouver bien sûr. Avec au sommaire de ce En Route pour Demain, eh bien une petite révolution que les Autrichiens vivent actuellement. Pour 3 euros par jour, ils ont accès en illimité à 90% des transports, qu'ils soient publics ou privés. On en parle avec Olivier Chisportige dans quelques instants. Le retour aussi de Bird à Paris, les trottinettes et les vélos. Je recevrai le porte-parole de Bird sur ce plateau. Et puis, vous connaissez les Smart et ses différentes déclinaisons. Connaissez-vous la version SUV? Eh bien, ce sera l'essai de cette semaine. Et puis, pour transformer n'importe quel vélo, on va dire traditionnel, en vélo électrique, il existe cette petite roue, la roue T-Back, qui électrifie, vous l'avez compris, n'importe quel vélo. Voilà, vous savez tout. Merci d'être là et bienvenue dans En Route pour Demain sur 01 TV BFM Business.
BFM Business et 01 TV présente En Route pour Demain avec Pauline Ducamp et François Sorel.
Voilà, vous retrouverez Pauline à mes côtés très vite dans En Route pour Demain, bien sûr. Mais dans l'immédiat, j'accueille Olivier Chisportige, que je suis ravi de vous retrouver dans En Route pour Demain. Salut. Bonjour, Olivier. Alors, on va parler de ce qu'on expliquait il y a quelques instants dans le sommaire. Pour inciter à utiliser les transports publics plutôt que la voiture, c'est une vraie problématique sociétale qui dépasse l'Autriche, certains pays ont lancé des cartes annuelles à bas prix qui permettent, écoutez bien, de prendre métro, tram et train de manière illimité.
Oui, et quasi gratuitement, on peut dire.
Quasi gratuitement.
Oui, alors c'est vrai, c'est imaginer une carte d'un abonnement un peu annuel qui permettrait de prendre le métro, les trains régionaux, les trains nationaux, les cars, les bus, de manière illimitée tous les jours pour environ 3 euros par jour. Wow. C'est ce que propose aujourd'hui l'Autriche à ses habitants. Ça s'appelle le climat ticket, le ticket du climat, qu'on peut résumer comme ça. C'est un abonnement qui est annuel, donc effectivement, il y a quand même un investissement qui est de 1095 euros par an, donc ça fait environ 3 euros par jour. Et donc, comme je l'ai dit, ça donne accès de manière illimitée, tous les jours, aux bus, aux métros à Vienne, aux trains régionaux, aux trains nationaux, ainsi qu'aux cars, tout ça de manière complètement illimitée, et c'est même un peu moins cher pour les seniors et pour les jeunes. Donc c'est une vraie initiative, effectivement, qui vise à accélérer la transition écologique dans le pays. En Autriche, on a un gouvernement qui est écologique et qui a promis d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2040. Et c'est vrai que cette neutralité pourrait très vite arriver, puisqu'il y a déjà un beau succès pour cette carte aujourd'hui qui est vendue depuis octobre dernier, ça fait vraiment quelques mois. On compte déjà 130 000 abonnements pour cette carte, et le pays compte 9 millions d'habitants, c'est quand même un petit pays, beaucoup d'abonnements, et l'Autriche n'est d'ailleurs pas le seul à faire ça. Il y a également le Luxembourg qui propose la même chose, et la Suisse également, avec un ticket d'entrée un peu plus élevé. En Suisse, on est même un peu 3 fois plus cher, mais on est quand même sur une approche qui est vraiment l'illimité au quotidien pour pouvoir se déplacer de manière propre avec les transports en commun. Maintenant, la question, c'est de savoir si c'est une vraie bonne idée, quelque part.
Vrai.
Est-ce que c'est efficace en termes de réduction du CO2? Est-ce que c'est efficace en termes d'adoption dans les transports en commun? Sur ce point précis, en fait, les avis sont assez partagés. J'ai interrogé plusieurs spécialistes des transports en commun, ferroviaires. Même s'il est trop tôt pour tirer un bilan, on va dire, écologique de ces mesures, parce que ça a été lancé assez récemment. Pour ces experts, en fait, il y a un risque qui découle de tout ça, c'est l'assèchement du financement public des réseaux. C'est-à-dire que effectivement, si on offre la gratuité, d'un autre côté, l'État doit compenser les pertes générées par les opérateurs.
C'est pas tout à fait la gratuité, c'est quand même 1000 euros par an. Donc
oui,
on peut imaginer que ça financera pas tout le réseau, bien
évidemment,
sûr. Mais je pense que c'est une équation, encore une fois, à résoudre.
Voilà, alors il y a un équilibre à trouver, un curseur à placer, mais le problème, c'est quand même qu'il y a de l'argent à compenser pour les opérateurs. Or, la vraie problématique, encore une fois, selon les experts, c'est pas tant le prix qui fait un blocage d'utilisation, c'est bien plutôt l'accessibilité et la performance. C'est-à-dire, plus le réseau est dense, plus le réseau est performant, plus les gens prennent le train. Le prix est un sujet qui, on va dire, secondaire à part pour les foyers les plus modestes, évidemment. Mais on rappellera dans le même temps qu'en Europe, hein, et notamment en France, il y a de nombreuses petites lignes, de nombreuses petites gares qui ont été fermées ces dernières années. Et en fait, les gens qui habitent les zones rurales, ils n'ont pas d'autre choix que d'utiliser la voiture. Il n'y a pas de train, tout simplement. Donc, beaucoup d'experts et beaucoup d'observateurs expliquent que la quasi-gratuité, hein, si on peut dire que c'est une quasi-gratuité, peut être synonyme, en fait, de paupérisation du réseau, des réseaux publics, alors qu'on a justement besoin d'investir très massivement dans ces réseaux.
Voilà, ou alors il faudrait une subvention très, très importante, voilà. Hein, par ailleurs. Alors, ça, c'est en Autriche. Tu disais qu'il y a d'autres initiatives dans d'autres pays européens. Mais est-ce qu'une telle approche est possible chez nous en France? C'est la question qu'on peut se poser.
Évidemment, et ce serait quelque chose qui pourrait faire rêver beaucoup de gens, de pouvoir se déplacer comme ça de manière à 3 euros par jour partout en France. Il faut bien d'abord comprendre que la Suisse, le Luxembourg, l'Autriche sont des petits pays, hein, c'est pas du tout péjoratif, hein, ce sont des petits pays géographiques. Hein. La Suisse, le Luxembourg et l'Autriche, c'est environ 9 millions d'habitants.
Ouais. Donc rien à voir avec les 65 voilà, ou 67 millions de Français.
Ce que fait l'Autriche, par exemple, c'est ce que pourrait faire la France au niveau d'une région. C'est ça. Par exemple, hein, voilà. Donc, par ailleurs, ce qui se passe aussi au Luxembourg, en Suisse, en Autriche, ce sont des pays qui sont très fortement maillés au niveau ferroviaire, où les réseaux sont très efficaces, très puissants, où les gens utilisent énormément le train, 4 fois plus qu'en France. Donc, on est quand même sur des marchés qui sont un peu à part, hein, qui sont un peu spéciaux, où c'est possible de mettre en place ce genre d'offre. C'est le tout contraire de la France, en fait. En France, on a un grand réseau, en domino, enfin, je veux dire, pas en domino, en millefeuille, où il y a beaucoup d'acteurs, et en plus, où la desserte fine des territoires est pas très bien assurée, hein, faut dire la vérité, hein, la SNCF a été longtemps épinglée sur cette question-là de la desserte fine du territoire, des régions. Donc, effectivement, on est sur une problématique qui est très différente, et toutes les études montrent que la première étape absolue pour faire revenir les gens dans le train, c'est encore une fois avoir du réseau, avoir de l'accès, tout simplement avoir des trains, des gares sur toutes les lignes, même les plus fines, pour que les gens abandonnent leur voiture et retournent dans les trains.
Et pour il y a aussi le paramètre du prix, parce que c'est vrai que bien sûr, le train est très très cher en France, oui, notamment les TGV.
Alors le train est très cher en France, mais il faut quand même savoir qu'on ne paye pas 100% du prix d'un billet en France, c'est-à-dire qu'avec les subventions de l'État, l'utilisateur, le voyageur ne paye qu'une partie du billet de train. Donc c'est intéressant à prendre en compte. Mais en tout cas, même quand on interroge des associations écologiques comme Réseau Action Climat France, hein, qui n'est pas quand même connue pour avoir des positions anti-train, elle plaide forcément et en priorité pour des investissements dans les infrastructures et pas vraiment sur le prix, ou en tout cas, elle plaide plutôt pour avoir des prix qui seraient ciblés pour les populations les plus fragiles. En fait, ce serait plutôt plus juste, plus cohérent socialement qu'une quasi-gratuité généralisée.
Très bien, donc le Netflix des transports, c'est pas pour tout de suite chez nous.
Pas pour tout de suite, je pense.
Merci beaucoup Olivier Chesportis pour ce sujet très intéressant qui donne parfois envie d'être autrichien, d'autant que c'est un très joli pays en plus.
Tout à fait, avec le Tyrol.
Merci Olivier. Et tout de suite, on enchaîne avec notre premier invité dans En route pour demain. Je reçois le porte-parole de Beurre tout de suite.
BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, l'invité.
Mon invité maintenant dans En route pour demain, c'est Mickaël Mamou. Bonjour Mickaël.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de Bird France. Bird qui est de retour à Paris avec des vélos électriques et puis peut-être après des trottinettes, puisque aujourd'hui tout ça fait partie d'une multimodalité qui est très intéressante. Mickaël, donc, alors rappelons, Bird, tout le monde connaît parce que c'est vrai que vous êtes une marque qui a une bonne popularité, c'est vrai, en France et un peu partout. Hein. Est-ce que vous pouvez nous dresser un petit portrait de Bird déjà avant de revenir sur tout ce qui c'est, toutes les mésaventures que vous avez pu vivre à Paris notamment?
Bien sûr. Alors Bird, c'est le pionnier, l'inventeur des micro-mobilités partagées en milieu urbain. Donc on a inventé en 2018 la trottinette électrique partagée. Depuis,
c'était vous les premiers à faire ça?
Bird a inventé, absolument. Bird a inventé la trottinette électrique.
Parce qu'il y en a 2-3 qui vous ont copié alors.
Il y en a quelques-uns, effectivement. Aujourd'hui, c'est un marché, une industrie qui est extrêmement fragmentée. Donc on a inventé cette industrie. Nous n'avons pas cessé d'innover depuis 4 ans maintenant. Et aujourd'hui, on revient à Paris avec une flotte de vélos à assistance électrique.
Alors, vous dites revenir à Paris parce que vous y étiez en 2018. On se souvient hein, de votre arrivée avec évidemment les trottinettes, etc. Pourquoi vous êtes parti de Paris en 2018?
Alors, la ville de Paris, comme un certain nombre de villes en France et en Europe, ont sanctionné l'arrivée de nombreux opérateurs en sélectionnant trois sur dossier.
On se souvient quand même de l'immense pagaille que c'était.
Absolument.
Hein,
absolument.
Parce que c'était pas réglementé. Il y avait des trottinettes partout, y compris dans la Seine d'ailleurs, beaucoup.
Absolument, il y avait un certain nombre de problèmes. C'est pour ça que comme je vous l'ai dit, nous n'avons pas cessé d'innover. On a été les premiers à l'époque à proactivement instaurer le stationnement contraint pour l'utilisateur. C'est-à-dire qu'au tout début, on a appelé ça le free-floating. Bird a mis fin au free-floating, c'est-à-dire qu'on a été les premiers à contraindre l'utilisateur à se stationner dans les aires de stationnement obligatoires, ce qui maintenant est devenu, je dirais, la norme.
Oui, la norme, bien sûr. En fait, vous avez essuyé les plâtres en 2018 d'un nouveau marché qui n'était pas très bien maîtrisé et avec les conséquences que ça pouvait avoir, voilà, quand c'était pas réglementé, c'est
oui,
ça.
Absolument. Je pense que c'est le jeu quand on innove, on essuie parfois des plâtres. Donc, effectivement, on a fait les frais à l'été 2020. Après, on est dans une industrie qui est extrêmement jeune, dont le potentiel est gigantesque. Enfin, encore une fois, un autre sujet, c'est de réduire les 11% d'émissions carbone que représentent les transports en milieu urbain en France. Donc c'est une histoire qui va s'écrire sur le très long terme. Et donc effectivement, on a essuyé les plâtres en 2020. Mais l'histoire est très longue et on a encore beaucoup de choses à apporter.
Donc, Bird avait quitté la France ou vous aviez quitté que Paris?
Alors,
en fait,
nous avions quitté Paris.
Ouais.
En revanche, en France, on s'est développé un tout petit peu puisqu'on a lancé 30 territoires différents. Aujourd'hui, Bird est présent dans 30 villes de France, de toute taille. On est présent à Laval, à Beauvais, à Marseille, à Bordeaux. Donc on est vraiment dans toutes les régions, dans des villes de toute taille, avec essentiellement des trottinettes électriques, des vélos à Bordeaux. Et donc là, maintenant, on revient à Paris avec une flotte plus conséquente.
Donc, qu'est-ce qui va se passer à Paris? Vous revenez par le vélo, en quelque sorte.
Absolument. Donc là, l'enjeu pour nous, c'est de venir en complément de, un, l'offre de transport en commun, deux, les opérateurs de vélo qui opèrent déjà. On vient avec une flotte complémentaire, avec une ligne directrice qui est de désenclaver les zones périphériques au sein de Paris intramuros. Et l'ambition à très long terme, c'est évidemment de travailler avec les communes du Grand Paris pour pouvoir participer tous ensemble au désenclavement de la périphérie et venir compléter ce que va faire notamment le tram.
Quand vous dites désenclaver la périphérie, ça veut dire qu'on trouvera des vélos Bird à la fois dans le centre de Paris, mais aussi en banlieue, c'est ça? Quelles sont les perspectives de déploiement de vos vélos?
Alors, la réglementation demande aux opérateurs de signer une convention avec chacune des communes sur lesquelles on souhaite opérer. Donc,
des communes limitrophes à Paris?
De toutes les communes de manière générale.
D'accord.
Donc là, absolument, on a l'autorisation de la part de la ville de Paris pour opérer dans Paris intramuros.
D'accord.
Donc notre stratégie de déploiement va consister à déployer au niveau du périphérique essentiellement pour inciter la population qui vient travailler à Paris à délaisser la voiture, utiliser pour rentrer vers le centre de Paris nos vélos.
Vélib est un acteur important. Vous allez devenir concurrent de Vélib, donc?
Alors, concurrent et en même temps complémentaire. C'est-à-dire que la nature de l'offre est un peu différente. Vélib, aujourd'hui, c'est un système d'attache fixe.
Tout à fait.
Nous, on a un système qui n'est pas du free-floating, mais qui est néanmoins sans attache, avec une politique tarifaire différente, un service différent. On vise des populations aujourd'hui un peu différentes.
C'est-à-dire que finalement, je ne serais pas obligé d'accrocher mon vélo à ces systèmes d'attache que l'on connaît pour Vélib.
Absolument.
Là, mon vélo, je le pose, et vous vous débrouillez de changer la batterie comme vous le faites avec les trottinettes.
Absolument.
D'accord.
C'est exactement ça.
Mais c'est plus cher.
C'est un peu plus cher, effectivement. On paye à la minute. Il y a également des forfaits. Donc, selon le nombre de trajets, ça peut revenir à quasiment le même prix qu'utiliser Vélib. Et on dispose d'une flexibilité gigantesque.
D'accord. Vous arrivez quand à Paris, alors, Mickaël?
Eh bien, aujourd'hui.
C'est
on arrive
frais,
aujourd'hui,
d'accord.
Absolument.
Okay. Et avec combien de vélos?
On va démarrer avec une flotte de 600 vélos. Encore une fois, il y a déjà une offre relativement substantielle sur le territoire parisien de vélos. Donc, le but est évidemment pas de se substituer, ne pas envahir les rues non plus. Notre enjeu aujourd'hui, c'est de comprendre les éléments de la chaîne de mobilité qui ne sont pas encore correctement comblés. Et notre première intuition consiste à penser que la priorité, c'est de désenclaver la périphérie. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on est en train de réaliser une consultation citoyenne, demander aux Franciliens quels sont les usages qui n'arrivent pas encore à couvrir avec le réseau de transport en commun et les vélos, et on adaptera notre stratégie de déploiement aux réponses données par les Franciliens.
Les trottinettes, Mickaël, elles vont arriver, des trottinettes Bird, c'est prévu ou pas?
Alors, les trottinettes, c'est un marché qui est réglementé. Il y a aujourd'hui la procédure d'appel d'offres qui a été lancée il y a 2 ans. Elle doit être renouvelée. Une nouvelle procédure va être lancée d'ici quelques mois et Bird sera évidemment postulant.
Vous serez candidat.
Absolument, oui.
Et le fait que vous posiez vos pions avec le vélo électrique facilitera peut-être l'adoption aussi des trottinettes un petit peu plus tard.
Alors, je pense que l'attribution du marché des trottinettes se fait vraiment exclusivement sur dossier, sur un certain nombre de critères objectifs.
D'accord.
Le vélo aujourd'hui, pour nous, consiste plutôt à une étape logique dans la courte et jeune histoire du développement de Bird en France. C'est une des milliers d'étapes qui nous attendent.
Très bien, voilà, Bird, le retour à Paris, et vous le disiez, dans une trentaine de villes en France, c'est ça ?
Absolument.
Voilà, merci beaucoup Michael Mamou, rappelons que vous êtes le directeur général de Bird France, merci.
Merci beaucoup.
Il est temps de retrouver notre essai maintenant de cette semaine dans En route pour demain. Vous connaissez les Smart, alors il y a les petites, il y en a des un petit peu plus grandes, mais est-ce que vous connaissez le SUV Smart ? Eh bien, si vous ne savez pas de quoi on parle, Dimitri Charitsis vous raconte tout de suite.
BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, l'essai.
Est-ce que vous vous souvenez de la Smart ? Vous savez, cette petite citadine sortie en 98 et qui permettait en fait de se garer dans une demi-place de parking. Eh bien en fait, la Smart en 2022, c'est ça. Un bon gros SUV. Bon, un SUV compact, c'est pas non plus trop gros, mais ça reste quand même un SUV. Alors pourquoi on est là aujourd'hui ? On est là pour la présentation en avant-première mondiale de la Smart, de la nouvelle Smart, la fameuse hashtag One. Cette voiture, c'est pas tout à fait une surprise pour nous. On l'avait déjà vue plus ou moins sous forme de concept en septembre à Munich lors du salon auto IAA. Et là, elle arrive dans sa version finalisée qui va être commercialisée dans les mois à venir. On en reparlera juste après. Smart, désormais, c'est une marque possédée moitié-moitié par Mercedes et par Geely, le fabricant chinois qui dispose également de Volvo et de Lotus. Globalement, pour cette Smart, le travail a été partagé en deux. Tout ce qui est design intérieur, extérieur de la voiture, c'est Mercedes. Tout ce qui est fonctionnement, OS et la partie mécanique électrique de la voiture, ça revient à Geely. Concrètement, on retrouve plus ou moins quelques signes distinctifs de chez Mercedes, notamment le bandeau lumineux qui va d'un bout à l'autre de la voiture. On l'a le même à l'avant et à l'arrière. Le design, il est plutôt original. Ça tranche un petit peu avec ce que Mercedes a fait ces derniers temps et c'est plutôt sympathique. À l'intérieur, l'habitacle, lui, il est beaucoup plus intéressant. C'est ce qu'on va vous emmener voir tout de suite. Une dernière petite chose niveau design qu'on aime beaucoup, ce sont les poignées affleurantes de la Smart. Alors, les poignées affleurantes, c'est pas nouveau. On l'a déjà vu chez Tesla et chez d'autres. Mais là, elles sortent assez facilement, elles émettent une petite lumière qui permet de voir exactement où on est et elles sont plutôt très joliment intégrées. À l'intérieur, malheureusement, on n'a pas le droit d'y aller aujourd'hui, mais ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a deux écrans. Ça s'articule autour de deux écrans. Il y a un écran de 9 pouces pour le conducteur et un écran de 12,8 pouces pour le système média. Ce système, en fait, c'est Geely qui l'a développé sur une base Android. Et là où c'est intéressant, là où il y a un choix assez osé de la part de Smart, c'est d'avoir son propre système et de ne pas le rendre compatible avec CarPlay et Android Auto. Pour le moment, cette voiture ne disposera que d'un OS propriétaire, à voir ensuite comment les choses vont évoluer. Autre chose assez notable à l'intérieur, c'est le système audio. Cette partie audio, elle a été confiée à Beats. On retrouve 16 haut-parleurs, un caisson de basse et plutôt quelque chose qu'on a envie de tester mais qu'on ne peut pas tester aujourd'hui. Donc vous l'avez compris, l'intérieur, l'habitacle, l'OS de ce véhicule, il est plutôt limité. Pour autant, Smart n'a pas voulu complètement brider l'accès à son véhicule et a notamment développé une application qui a l'air un peu plus poussée que les applications moyennes sur les voitures électriques. Typiquement, il est possible d'ouvrir la voiture à distance uniquement avec son application, voire d'ouvrir et de prêter sa voiture à d'autres à partir du moment où ils ont un ID Smart. Ça, c'est plutôt ingénieux. Parlons maintenant de la partie technique, on va aller assez vite. Le moteur, c'est un moteur assez puissant compte tenu de la voiture et du nom Smart. C'est un moteur de 200 kW, ça équivaut à 272 chevaux. Le couple, il est de 343 Nm, donc quelque chose d'assez péchu. Et on a accessoirement une batterie de 66 kWh. Ça donne, alors on n'a pas encore l'homologation officielle pour cette voiture, mais on a quelque chose entre 420 et 440 km d'autonomie. Donc, quelque chose qui se situe tout à fait dans la moyenne des SUV actuels. Vous l'aurez compris, il n'y a pas grand-chose à voir entre la Smart des années 90, ce petit pot de yaourt, et ce gros SUV qui pèse plus d'une tonne de plus que son aîné. Et voilà, c'est aujourd'hui, on est dans un monde qui est dominé par les SUV, et en ça, Smart suit complètement le marché, quitte à renier intégralement son idée originale. La Smart hashtag One ou Modiez 1 en bon français, elle sera commercialisée en précommande dès le mois de septembre chez nous pour une livraison en France janvier 2023.
BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, en région.
En région, et nous allons dans une très très belle région et parcourir une très belle ville. Il s'agit de Nice. Et oui, Nice qui est le berceau de T-Bike. Et on en parle avec mon invité Laurent Durieux. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Cofondateur donc de T-Bike. T, ça s'écrit T-E-E, attention. Hein. Et en fait, vous êtes un inventeur d'une roue qui électrifie n'importe quel vélo. Alors c'est intéressant parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de vélos électriques, voilà, de ce nouveau mode de transport qui est vraiment sympathique. Mais on se dit, bah tiens, à chaque fois il faut que je rachète un vélo électrique. Eh bien non, vous vous dites, c'est pas obligé, on peut prendre son ancien vélo et le transformer.
Exactement, on propose une alternative, puisqu'un vélo électrique c'est un vélo à la base sur lequel on installe un système électrique pour rendre la terre plate, comme on dit. Et donc, plutôt que d'aller
on acheter... oublie les montées.
Exactement, c'est la magie du vélo électrique. Et quand on a tous essayé, tout devient facile. On se prend pour des champions du cycliste.
C'est vrai.
Mais l'idée est partie du constat que, en France, le parc de vélos adultes est estimé à 40 millions. Donc, ça fait quand même un gros parc de vélos. Et que sur ce 40 millions, de nombreux vélos sont en très très bon état. On les utilise qu'occasionnellement, pendant les vacances, pendant les week-ends. Et donc, l'idée, c'est de dire, plutôt que d'acheter un nouveau vélo, vous allez électrifier le vélo que vous avez depuis récemment ou depuis de nombreuses années, qu'il soit très ancien, très cher ou économique, peu importe. Vous changez juste la roue avant. Vous installez la roue T-Bike et vous avez passé votre vélo en vélo électrique.
Mais bon sang de bonsoir, mais il fallait y penser, c'est vrai. En fait, en changeant la roue avant, simplement, toute la techno est dans cette nouvelle roue, d'accord ? J'installe la roue et après, qu'est-ce que je fais ?
En fait, à partir de là, on télécharge une application dans son téléphone. La roue, c'est un objet connecté. On a tout mis à l'intérieur. En 2022, on parle d'objet connecté, on en a fait un objet connecté. Tout le monde a un smartphone, vous téléchargez l'application T-Bike sur votre téléphone et puis à partir de là, vous allez piloter votre vélo directement avec votre smartphone en fonction des besoins d'assistance que vous avez, comme tous les vélos électriques.
Alors, vous dites que ça se connecte sur n'importe quel vélo. Je ne suis pas un spécialiste du vélo, mais ce type de roue se s'enclenche sur n'importe quel vélo.
Quasiment, on va dire, 95% des vélos grand public.
D'accord.
On écarte volontairement les vélos de course en carbone, les vélos très haut de gamme, parce que ce public
ne va pas
d'abord pédale la plupart du temps, ou va investir dans des vélos vraiment de haute technologie, on va dire, les derniers cris. Mais sur les vélos grand public, vélos de ville, VTC, VTT, en fait, la roue s'installe sans aucune difficulté en 3-4 minutes. La preuve en est, c'est que plus de la moitié de nos utilisateurs sont des utilisatrices qui n'ont pas forcément de compétences techniques autour du vélo. Et elles s'installent elles-mêmes leur roue T-Bike en quelques minutes, quoi.
Mais alors, il existe plusieurs tailles de roues T-Bike ? Comment ça marche, en fait ?
En fait, c'est simple. Vous regardez la taille de la roue de votre vélo.
Oui.
Vous nous envoyez la taille et on vous livre directement à la bonne taille, équipé d'un pneu. En fait, le seul outil qu'il vous faut, qui n'est pas très compliqué, c'est une pompe à vélo pour gonfler le pneu.
C'est ça.
Tout le reste, vous l'avez dans le colis. Et on a bien sûr énormément de retours de nos clients. Globalement, en 3-5 minutes, ils ont tous installé la roue T-Bike.
Il existe beaucoup de tailles de roues de vélo comme ça ?
En fait, le marché, globalement, c'est deux tailles.
Ah,
après,
d'accord.
Par exception, vous avez les mini-vélos, vous avez les vélos cargo, vous avez plein de types de vélos, mais ça fait 5-6 tailles, mais 95% du marché,
c'est deux tailles.
Ce sont deux tailles de vélos. Donc pour nous, c'est très simple à gérer. Et pour nos utilisateurs, voilà, ils ont juste à nous communiquer la taille.
Alors, j'imagine que ça doit être quand même une certaine prouesse technologique, non ? De mettre toute l'intelligence, en fait, d'un vélo électrique dans une roue. Parce qu'il faut la batterie, il faut le moteur. J'ai vu aussi que tout était connecté, il y avait du Bluetooth, etc.
Ouais.
Tout rentre dans une roue de vélo ?
Alors, plus on avance en technologie et plus on miniaturise tout ce qui tourne autour de l'électronique. Bien entendu, ça a été quand même un peu de temps de développement. Il a fallu pratiquement 2 ans. On a cassé énormément de prototypes. Après les avoir cassés, il y en a beaucoup qui ne marchaient pas comme on voulait. Et donc, c'est un peu de développement. La prouesse n'est pas incroyable, c'est du pragmatisme. Sur la base d'une bonne idée, comme vous disiez, qui est de dire, voilà, on garde son vélo et tout le monde peut se l'installer soi-même.
Alors attendez, parce que quand on a un vélo électrique, on a une petite manette qui nous permet de choisir le niveau d'électrification qu'on va avoir pour être plus ou moins fatigué ou pas. Absolument. Là, comment ça marche? Il faut que je connecte un petit bouton sur le cadre de mon vélo. Comment ça fonctionne?
En fait, c'est même plus simple. On va vous livrer un petit support de smartphone que vous allez installer à côté de votre poignet. Et c'est votre smartphone qui va avoir les boutons et tous les outils pour piloter votre vélo.
C'est pratique ça de lancer l'appli, de faire tout ça depuis le smartphone?
En fait, c'est hyper pratique parce que un smartphone, c'est totalement tactile. Ouais. Vous allez juste avec le pouce changer vos vitesses exactement comme sur un vélo électrique. Et puis en plus, ce qu'on a fait, c'est que l'application, elle est résidente dans le téléphone, donc vous n'avez pas besoin de carte SIM, vous n'avez pas besoin de réseau, aucune connexion.
D'accord.
Et donc vous allez pouvoir, en plus de recycler et d'upgrader votre vélo, vous allez recycler des anciens téléphones que vous ressortez éventuellement des tiroirs. Et donc on a pas mal d'utilisateurs qui font de la pratique en forêt, un peu plus sportive, qui ont toujours un peu peur de faire tomber leur téléphone parce que souvent ils coûtent plus cher que la roue. Et donc ils ressortent un vieux téléphone des tiroirs qui a 5-6 ans et ils ne l'utilisent que pour piloter leur vélo.
Combien coûte cette bike?
La roue coûte 795 € livrée chez vous.
Très bien. Et bien voilà. Une invention française, niçoise. Il s'agit de T-Bike. Merci beaucoup Laurent Durieux d'être passé par le plateau d'En Route pour Demain. Et bien voilà, ce numéro est terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment. On sera bien sûr fidèle au poste la semaine prochaine. D'ici là, merci de nous suivre. À très vite.
En Route pour Demain, l'innovation de la mobilité sous toutes ses formes.